première. Tout autre chose.
Nous parlons aujourd'hui des céphalées dans cette émission avec le docteur Catherine Gillin qui est neurologue et Françoise Lefebvre-Brassigne qui est présidente de la Ligue belge contre les céphalées. Une ligue dont vous pouvez trouver les informations sur le site www.céphalées.be. Céphalées sans S, bien précisé. www.céphalées.be. Vous y trouverez d'ailleurs un forum de discussion et pourquoi pas échanger des informations avec d'autres personnes concernées par les céphalées. À se préciser également que la Ligue belge contre les céphalées est plus portée migraine, justement, avec plus de patients migraineux qui sont...
Oui, parce que je crois que les migraineux, on trouve plus difficile à trouver une solution plus que les céphalées. Donc, nous sommes plutôt axés migraine.
Oui. Vous avez dit les chiffres. Est-ce qu'il y a plus de migraineux dans les céphalées que d'autres types de céphalées, justement? Est-ce que c'est la majorité?
C'est la majorité.
La majorité. Ça représente à peu près combien de personnes?
Ça représente, selon les chiffres, entre 12 et 16% de la population générale, ce qui est quand même assez énorme.
Donc, de migraines, pas de maux de tête.
De migraines.
C'est énorme, quand même.
Énorme.
Dont tous ceux qui signent.
Dont tous ceux qui s'ignorent, vraisemblablement. Et ça représente 5% des enfants en âge scolaire.
Alors justement, on avait des questions par rapport aux enfants, parce que plusieurs auditeurs ont noté que leurs enfants souffraient de maux de tête. En tout cas, les enfants se plaignent d'avoir des maux de tête. Et lorsqu'ils en parlent à leur pédiatre, régulièrement, on leur répond que c'est psychosomatique. À d'autres, on a donné d'autres réponses. Ce n'est pas une réponse générale, mais est-ce que ça peut effectivement avoir une origine psychosomatique chez un enfant, ou est-ce que c'est une réalité migraineuse comme un adulte?
Alors la céphalée peut avoir une origine psychosomatique chez tout le monde, la migraine aussi. Attention, psychosomatique, c'est pas péjoratif du tout, hein. Ça veut dire que votre corps exprime quelque chose d'émotionnel par un symptôme physique. Donc ça peut toujours être intéressant, et le corps peut utiliser une faiblesse qu'on a. Je veux dire, un patient migraineux va effectivement avoir plus tendance à faire des migraines lorsqu'il est contrarié. Quelqu'un qui sera asthmatique fera sa crise d'asthme, quelqu'un qui a un ulcère à l'estomac fera une douleur à l'estomac. Donc, psychosomatique n'est pas péjoratif, c'est important de le dire. Donc, effectivement, chez l'enfant, ça peut être une manifestation d'un mal-être. L'enfant peut avoir des maux de tête banals, il peut aussi avoir des maux de tête dus à des problèmes visuels qui n'ont pas encore été mis en évidence aussi. Mais l'enfant est migraineux. L'enfant est migraineux, je vous dis, d'à peu près dans 5% des cas, ce qui est assez énorme, et vraisemblablement depuis peut-être même l'âge d'un an.
Je lisais d'ailleurs dans les articles que, contrairement à l'adulte, chez l'enfant, c'est autant les garçons que les filles?
Alors, c'est même plus les garçons que les filles.
Ah oui.
Chez donc, avant la puberté, c'est plus les garçons que les filles, à peu près 2 pour 1. Et après la puberté, on passe à 4 filles pour un garçon. Alors, la manifestation clinique n'est pas tout à fait la même. D'abord, les maux de tête en soi surviennent de façon plus insidieuse et durent moins longtemps que chez le migraineux adulte. Et curieusement, c'est pratiquement toujours frontal et pratiquement toujours des deux côtés. Donc on n'a pas le côté unilatéral et on n'a pas le côté extension de la crise. Ce qui est très interpellant, par contre, ce sont les manifestations, les syndromes migraineux, mais presque sans migraine chez l'enfant, et qu'il faut absolument connaître. Dont, chez le petit, 1 an, 2 ans, 3 ans maximum, le torticolis aigu. Donc c'est un enfant qui a un torticolis brutal, qui est grincheux, qui est manifestement déséquilibré, et ça passe relativement rapidement. C'est ce qu'on appelle un équivalent migraineux. Il y a aussi beaucoup de manifestations de type vertige, instabilité, irritabilité, associé à des maux de ventre. Pratiquement tous les enfants migraineux ont mal de ventre. C'est un mal de ventre type un peu colique, souvent autour du nombril, un peu imprécis, mais qui, contrairement au mal de ventre d'origine digestive, ne dure pas. Donc c'est une crise assez brève et qui survient comme ça de temps en temps, entre lesquels l'enfant est parfaitement bien. Donc il faut penser à ces équivalents migraineux chez l'enfant, parce qu'on peut les traiter aussi, on peut vraiment aider l'enfant.
Alors, avoir une conversation avec un enfant d'un an, c'est pas forcément évident non plus. Hein.
Non, mais enfin, pour après, oui. Mais le torticolis, on le voit.
Mais de toute façon, c'est à prendre au sérieux, psychosomatique ou autre, puisque vous le disiez, Madame Lefebvre, ça a commencé quand vous étiez petite, donc même peut-être avant votre adolescence et avant la puberté.
Oui, au moment de la puberté, je crois. Mais c'est vrai que j'ai quand même fait dans mon parcours, j'ai quand même fait tous les examens, les scanners, les électros, électroencéphalogramme. Tout ça est indispensable pour voir s'il n'y a pas quelque chose de plus grave. Oui.
Ah, je vous voyais lever la main aussi.
Si, chez l'enfant, oui. Chez l'enfant, il faut absolument quand même exclure toute autre cause parce qu'effectivement, comme vous disiez, on interroge peut-être moins facilement un enfant parce que les manifestations sont moins typiques. Donc c'est vrai que madame a raison. Autant chez l'adulte, on ne se précipite pas si on est sûr sur scanner et autres, autant chez l'enfant il faut le faire.
Oui. Nous avons également un jeune trentenaire qui voudrait savoir, donc c'est un homme, si un homme peut faire des migraines hormonales. Parce que vous parliez d'hormones.
Pas connu en tout cas, je ne vais pas m'avancer. Les migraines dites hormonales sont des migraines chez la femme liées à la chute de l'estrogène. Donc l'homme, a priori, ce n'est pas hormonal du tout. Mais il faut se rendre compte que la migraine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si elle peut être favorisée par ces troubles hormonaux, ce n'est pas du tout le seul facteur favorisant. Hein.
Venons à la question peut-être de l'origine, parce qu'on a parlé de deux types d'origines différentes. On a parlé d'une origine héréditaire éventuellement, ou d'un terrain génétique favorisant, en tout cas, la migraine chez certaines personnes. Et puis vous avez parlé aussi de l'origine des crises, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui va provoquer peut-être un épisode migraineux chez les personnes? Là, vous avez dit que c'était mal connu, qu'on connaissait mal les... Est-ce que le stress peut être un facteur?
Oui. Le stress est un facteur favorisant énorme des crises migraineuses. Une fois de plus, c'est une forme de psychosomatisation, bien sûr. Donc, il est en cause à peu près dans 75% quand on interroge les patients migraineux. Attention, les facteurs favorisants, chez chaque patient migraineux, on en retrouve en général en moyenne 4 à 5. Hein. Donc, ce n'est pas un seul, c'est souvent plusieurs. Mais le stress, c'est évident. Le stress, le manque de fatigue, le décalage horaire jouent un rôle vraiment prépondérant. C'est un peu la casserole à pression. Alors, ce qui est très, très interpellant, c'est que la migraine arrive au moment où le stress s'arrête. C'est typiquement les migraines du samedi matin, du début de...
Du dimanche, me disait une personne.
Oui, ou du dimanche, parce que si elle travaille le samedi, donc disons du week-end, du premier jour des vacances, du départ en vacances, la migraine après les examens. C'est comme si le corps, pendant le stress, était capable de tenir le coup. Et puis une fois que le stress s'arrête, on ouvre le couvercle et alors tout explose. Donc c'est aussi un des critères intéressants de la migraine. C'est au moment du relâchement du stress que c'est le pire.
Oui, Madame Lefebvre.
Oui, l'alcool, bien sûr, est aussi un facteur déclenchant.
Ah oui,
ça, c'est, bon, tous les migraineux que je connaisse boivent jamais d'alcool.
S'abstiennent.
Oui, s'abstiennent tout à fait.
Alors, alcool, oui et non. C'est-à-dire qu'une fois de plus, il y a des sensibilités personnelles. Il y a des gens qui... Par exemple, j'ai une patiente, c'est un tel type de vin blanc et tous les autres
surtout
elle peut
le
boire.
Vin blanc, oui.
D'autres ce sera le champagne, le troisième ce sera, j'ai un patient masculin justement, c'est la bière, il adore la bière le pauvre et il a des crises de migraine extraordinaires quand il boit une bière.
Alors vous parliez du vin, les vignerons et la production, les producteurs viticoles qui souffraient un petit peu de cette réputation en ce qui concernait le vin blanc qui donnait mal à la tête, ont retiré certains éléments dans la production du vin blanc, les sulfites, et note qu'il y a quand même une baisse des plaintes à ce niveau-là.
C'est sûr que sans doute les sulfites sont très forts en cause dans... Mais les sulfites, on en retrouve beaucoup dans le champagne aussi et dans certaines conserves. Notamment, c'est vrai que j'ai une patiente moi, qui fait beaucoup de migraines quand elle achète le jambon pré-emballé parce qu'il y a du sulfite dedans. Donc oui, il faut reconnaître. Maintenant, une fois de plus, ça ne veut pas dire que tous les migraineux doivent s'empêcher d'en prendre. Attention, chacun a
un seuil de tolérance.
À son type de facteurs favorisants. Heureusement, moi qui suis vraiment une chocolatomaniaque, je ne suis absolument pas migraineuse au chocolat et Dieu merci, mais j'ai une pauvre patiente, chaque fois qu'elle fait son gâteau au chocolat, elle se tape une migraine le lendemain. Ça ne veut pas dire que chacun a ses propres facteurs favorisants.
Mais aussi le syndrome du restaurant chinois. Là, vous pourrez peut-être expliquer pourquoi.
Alors ça, c'est dû au MSG, hein, le médiosodium glutamate, en fait. Mais ça provoque une céphalée. C'est pas une migraine, c'est une céphalée. Donc le glutamate provoque une céphalée terrible, très très invalidante, avec une sensation de vertige d'ailleurs. C'est assez typique, c'est heureusement de plus en plus interdit.
On parlait aussi d'intolérance au gluten. Un des auditeurs qui en parlait, que quand il a des épisodes d'intolérance grave, c'est accompagné d'une céphalée aussi pour lui.
Oui, donc ça fait partie plutôt des troubles métaboliques. Donc c'est vrai que beaucoup de troubles métaboliques peuvent engendrer des céphalées, voire des migraines. Et donc il faut être attentif. Maintenant, c'est pas pour ça que tout le monde doit supprimer le gluten une fois de plus. Il faut certainement pas se lancer dans des régimes carencés qui vont nous entraîner d'autres problèmes. Il faut reconnaître ce qui, parmi les exemples, comme je disais tout à l'heure, le chocolat chez telle dame, le fromage chaume chez une autre, la bière chez un troisième. Il faut reconnaître ce qui nous est propre.
Je comprends qu'on vous appelle Sherlock Holmes parce qu'effectivement, si à chaque fois il faut demander aussi ce que la personne a de manger
à chaque
avant,
fois, je demande. Voilà. Oui. Et en plus de ça, je fais tenir ce petit calendrier, cet agenda qui est extraordinaire, qui est édité d'ailleurs grâce à la ligne et qui est un outil extraordinairement précieux. Donc, par mois, le patient est invité à noter. Quand il a une migraine, les caractéristiques de sa migraine et à être particulièrement attentif à tout ce qu'il a vécu dans les 24 heures qui entourent cette migraine, donc qui peut nous donner une idée des facteurs favorisants. Et puis aussi, les différents essais de traitement. Comme je disais tout à l'heure, comme chaque personne a un profil répondeur différent, on leur propose différents essais et à telle et telle et telle crise, il va noter ce qui a marché le mieux. Maintenant, il faut savoir aussi que chez un même patient, un même triptan ne donne que 80% de réponse. Donc, c'est pas pour ça qu'il marche pas. Une fois de plus, c'est difficile.
Mais d'où effectivement l'importance de trouver le bon interlocuteur et d'avoir un suivi très régulier au début pour bien dépister les caractéristiques de ses propres
effets. D'avoir le suivi, le dialogue, la confiance. Le patient doit entendre ce discours, qu'on ne va pas avoir de solution miracle, qu'il faut tâtonner, qu'il faut chercher, mais qu'on va y arriver. Mais ça prendra plusieurs mois.
On va se retrouver, si vous le voulez bien, dans quelques instants pour reparler de tout cela et pour conclure déjà cette émission. Sainte-Séverino, exactement.
À la recherche de la légèreté sous une fine pluie dense et tiède, pensant trouver la fluidité coulant doucement comme de l'eau claire. Dans un ciel gris foncé, transpercé d'éclairs, c'est un tonnerre muet qui gronde sans bruit. Quel abruti je suis, je cours après des images et cherche un nouveau langage. Cette fois-ci, je ne sais pas trop bien quoi dire exactement. Tu avais débarqué pour me coloniser, comme bien des pays qui ne s'en sont pas privés, m'imposer ta culture, ta religion, ton art. Au début j'ai dit oui, j'ai regretté plus tard, l'amour est une arrivée, une invasion. Au début les offrandes, à la fin la prison, je me suis engourdi, plus moi-même vraiment. C'est comme ça quand on aime, exactement. Et maintenant si tu m'abandonnais pour un autre ou pour rien d'autre qu'un pour rien vaut rien, fade et niais, Frédéric il s'appellerait ou bien Alain, et bien cet Alain s'étalerait et il repartirait, je veux te récupérer, te faire revenir à la case, à la maison pour de bonnes raisons, j'argumente et développe mon projet patiemment, que vas-tu faire maintenant exactement? Exactement. Que vas-tu faire exactement? Si à nouveau je réfléchissais un peu moins, mais un peu, enfin pas trop. Le minimum qu'il faut, peut-être que le mal est l'ennemi du bien. Je m'en sors bien, le doute n'est l'ennemi de rien. Mais il peut être toutefois synonyme de son contraire. On peut dire par exemple, je m'en doutais mon frère. À la question, est-ce que tu comprends? Je réponds non. Tu t'en doutais exactement? Eh ben c'est toi qui avais raison. Exactement. Le doute et l'amour sèment le trouble en même temps, mais ce sont pourtant deux éléments importants. Aucun des deux ne rassure l'autre, et pourtant, il ressemble à d'inséparables sentiments. Rappelons-nous que le mal est l'ennemi du bien, considérons le doute comme l'ennemi de rien. De quoi le doute est-il le contraire vraiment? Absolument l'inverse d'exactement.
Exactement. Il est 11h19, tout autre chose, jusqu'à 11h30 encore, les céphalées dans cette émission avec nos invités. Vous êtes très très nombreux à nous poser des questions. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir y répondre à tous. On a la même frustration dans le studio avec le docteur Gilin et Françoise Lefebvre-Brassine, parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à dire sur les céphalées. Et bien sachez que le 12 septembre, c'est la journée de la migraine. Nous referons une émission sur les céphalées à l'occasion de cette journée. Nous annoncerons d'ailleurs les événements qui auront lieu au cours de cette journée organisée par les différentes associations, puisque la Ligue belge contre les céphalées n'est pas la seule organisation qui se consacre à l'aide aux personnes migraineuses, mais en tout cas, vous êtes la seule à porter identiquement ce nom. Les autres, ce sont plutôt des associations contre la douleur et ce genre de choses qui incluent la migraine.
Nous sommes associations de patients axé sur les céphalées et la migraine particulièrement. Mmh. Oui.
Je rappelle le titre, l'adresse pardon, de votre site www.céphalées.be, et je voudrais également vous inviter si vous voulez vous renseigner, à vous tourner sur le Larousse guide santé consacré aux migraines et aux maux de tête. Donc c'est aux éditions Larousse, un ouvrage qui reprend toutes les informations dont nous avons parlé dans cette émission. Et nous allons parler maintenant des auras et des podromes, parce que beaucoup nous parlent de symptômes, moi j'appelle ça des symptômes, vous me direz si c'est exact ou pas, qui peuvent accompagner ou précéder une migraine, comme les douleurs ophtalmiques, voire la perte de vision, etc. Et là, vous me disiez, ce sont des auras, ça. Alors c'est quoi, en fait ?
Oui, je fais une petite parenthèse, le prodrome n'est pas l'aura.
D'accord, c'est différent.
Le prodrome, c'est un signe annonciateur, le plus souvent une fatigue, un bâillement, un manque d'appétit, qui les jours avant, même parfois, peuvent annoncer au patient qu'il va être migraineux.
Difficile de savoir qu'on va être migraineux quand on bâille.
Enfin, qu'on va avoir une migraine, pardon. Vous avez raison de faire la précision. Alors, l'aura, par contre, fait partie de ce qu'on appelle dans notre jargon la marche migraineuse. Le plus souvent, l'aura, qui est un trouble neurologique transitoire, précède la migraine. La migraine doit survenir, la douleur donc doit survenir généralement dans l'heure qui suit, mais elle peut parfois aussi accompagner le début de la migraine, voire même, c'est assez interpellant, ne pas être suivi de douleur. Donc ça peut poser de gros problèmes. Donc c'est un trouble neurologique dit focal. Le plus souvent, 90% des auras sont visuelles, c'est-à-dire que les patients ont des troubles visuels, très souvent c'est des scintillements, des taches lumineuses qui prennent de plus en plus d'importance dans leur champ visuel, empêchant même parfois la vision, la lecture, et puis qui sont suivis, donc, comme je disais, dans l'heure qui suit, par le développement de la douleur.
Est-ce que c'est pas ça qu'on a considéré longtemps comme les migraines ophtalmiques ?
Oui, tout à fait. D'accord. C'est un mauvais terme. Donc, c'est des migraines avec aura visuelle. Il y a aussi des auras sensitives, donc le plus souvent qui touchent le tour de la bouche et la main, donc des troubles de la sensibilité, des picotements autour de la bouche et de la main. Il peut y avoir plus rarement des auras phasiques, donc le patient qui a vraiment des troubles de la parole, qui brouble, comme on dit à Bruxelles. Et on peut enfin avoir, mais rarement, heureusement, des auras vraiment motrices avec une faiblesse d'un membre. Donc ça, c'est, on comprend ça comme étant justement cette fameuse trouble de la conduction électrique au niveau d'une partie du cortex cérébral, qui peut être provoqué manifestement par des problèmes mécaniques, par sans doute des modifications du glutamate et du potassium, mais aussi par des problèmes ischémiques. Et actuellement, il y a un grand débat sur l'origine des auras, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un lien possible avec la persistance d'une anomalie cardiaque. En fait, le cœur du fœtus à une communication entre le cœur droit et le cœur gauche, puisque les poumons ne sont pas encore fonctionnels, d'accord ? À la naissance, lorsque le bébé se met à respirer, cette communication se ferme, et vous avez donc le cœur droit qui file vers les poumons, qui va être ensuite... Donc, le passage ne se fait plus du cœur droit vers le cœur gauche. Il y a quand même 5% de la population qui garde un petit trou qu'on appelle le foramen ovale entre les deux oreillettes. Mais on s'est rendu compte que la prépondérance chez les patients migraineux était beaucoup plus importante. Mais chez les patients migraineux avec aura. Donc, ce que l'on fait maintenant, c'est que quand quelqu'un a des migraines avec aura, on lui fait faire un examen cardiaque qui recherche si ce foramen existe, s'il est large ou pas, c'est-à-dire s'il laisse passer plus largement que d'autres, parce qu'il y en a qui sont vraiment minimes. Et s'il reste largement ouvert, on lui fait une IRM cérébrale pour voir si éventuellement il y a des petites lésions ischémiques. Donc, il peut avoir des petites embolies paradoxales, comme on appelle le plus souvent des mini-bulles d'air, qui peuvent entraîner des petits troubles ischémiques. Alors, au début, quand on a découvert ça, on a proposé des fermetures chirurgicales du foramen ovale avec, c'est vrai, parfois des résultats extraordinaires. J'ai deux patientes qui étaient des migraineuses extrêmement sévères qui n'ont plus rien du tout, mais l'analyse à très large échelle n'a pas encore montré qu'il y ait un lien évident et qu'il y ait vraiment un lien entre l'opération et l'amélioration de la migraine. Donc pour l'instant, il y a une très large étude au niveau européen qui est en cours de manière à identifier si oui ou non il y a un rôle du foramen ovale et si oui ou non ça vaut la peine de le fermer chirurgicalement.
Est-ce qu'on cherche d'autres connexions de ce type entre d'autres organes du corps et les problèmes neurologiques ?
Je pense qu'on les a cherchés, mais qu'on l'a pas mis en évidence actuellement.
Il nous reste malheureusement très peu de temps. Docteur, par quoi voulez-vous conclure? En 2 minutes, je dirais.
Mais en 2 minutes, de rappeler que c'est une pathologie en soi, hein, que ça vaut la peine d'être pris au sérieux, que d'ailleurs toute céphalée mérite une mise au point, quel que soit le type de céphalée que l'on a, surtout si c'est une céphalée inhabituelle d'ailleurs, hein, ça c'est très important, et puis que les migraineux sachent qu'effectivement il y a de plus en plus de choses qui existent, de mise au point... très spécifiques, de traitements appropriés médicamenteux et non médicamenteux, on n'a pas le temps d'en parler malheureusement, que justement les associations de patients migraineux et les ligues sont là aussi pour expliquer aux patients tout ce qui existe et pour montrer qu'ils ne sont pas seuls. Ça, je crois que c'est vraiment important aussi. Et que cette prise en charge multidisciplinaire, à la fois médicale et du patient lui-même pour sa propre pathologie, donne de très bons résultats la plupart du temps.
Chose importante aussi que vous avez signalée dans le courant de cette émission, c'est qu'un migraineux n'est pas l'autre et que ce qui va fonctionner pour l'un ne fonctionnera peut-être pas pour l'autre et que les symptômes ou les manifestations ne sont pas les mêmes non plus pour l'un ou pour l'autre.
Chacun a son profil et il doit apprendre à le reconnaître.
Madame Lefebvre, pour conclure.
Bien, je vais vous dire que on peut se faire membre de la Ligue, bien sûr. C'est 8 euros, c'est pas trop cher. Nous éditons une petite brochure annuelle. Nous organisons également des séances d'information. Il y en aura une, entre autres, le 12 décembre. Je n'ai pas encore les détails ici. Et nous distribuons également l'agenda des maux de tête. Et nous sommes à l'écoute des migraineux.
Je m'engage donc à ce qu'il y ait une autre émission consacrée aux céphalées et peut-être aborder l'un ou l'autre justement de ces traitements de fond dont nous n'aurons pas eu le temps de parler aujourd'hui et pourquoi pas avec d'autres témoignages, avec d'autres questions également. Docteur Gillin, vous serez des nôtres ?
Avec plaisir.
Eh bien, rendez-vous donc en septembre pour une nouvelle émission consacrée aux céphalées avec tout ce que nous n'aurons pas eu l'occasion de voir dans cette émission-ci. Je vous donne rendez-vous demain, bien sûr, pour parler de toute autre chose. Et notre sujet de demain, eh bien, c'est la cosmétologie naturelle et bio. Ils sont de plus en plus nombreux, ces produits cosmétiques, à sortir avec parfois même un label. Alors nous allons essayer de comprendre quel est ce label, ce qu'il implique, ce qu'il comprend, et si ces produits cosmétiques et bio sont véritablement bio, ou s'il faut parfois mettre un bémol dans certaines conditions. Voir aussi si tout ce que l'on trouve pour les enfants aujourd'hui sont des produits bien adéquats ou pas. Enfin bref, toute une série de choses que nous verrons demain. La cosmétologie bio et naturelle, c'est demain dès 10h et c'est tout autre chose. Donc je vous souhaite une excellente matinée à l'écoute de La Première et une excellente journée. D'ailleurs, je vous laisse avec Nicolas Blanmont, le classique des classiques, et à bientôt. Merci à vous mesdames.
Merci.
Au revoir.